Mercredi 28 juillet, bon réveil. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous accompagner. Un nouveau journal. On écoute le monde changer. Il est 8h.
Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française.
Emmanuel Macron était très attendu sur le sujet. Il promet la vérité et la transparence sur les essais nucléaires menés pendant 30 ans en Polynésie. Bilan très mitigé pour les soldes d'été qui se sont terminés hier. On fait le point avec Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, notre invité dans ce journal. Et puis les Jeux Olympiques de Tokyo avec une troisième médaille d'or pour les Bleus, décrochée cette nuit par le duo en aviron. Juste après ce journal, l'invité politique. Les Français ont découvert son visage avec la première vague de l'épidémie il y a 10 mois. Aujourd'hui, Philippe Juvin, médecin, chef des urgences à l'hôpital Pompidou à Paris, se lance dans la primaire des Républicains. Alors pourquoi faire? Avec quel objectif? Sa réponse à 8h15. Très bon réveil, merci d'avoir choisi Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h. Bonjour Émilie Dez.
Bonjour Théo, bonjour à tous. Emmanuel Macron était attendu au tournant. Le chef de l'État a bien parlé ce matin en Polynésie des essais nucléaires réalisés pendant 30 ans dans le Pacifique. Claudia Bertram, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial sur place pour Europe 1. Vous avez suivi le discours du président tout à l'heure à Papeete, qui a promis de faire toute la transparence sur ses essais nucléaires.
Oui, c'est au bout de 45 minutes de discours qu'Emmanuel Macron aborde le sujet sensible des essais nucléaires. Cette part d'ombre, dit-il, j'assume tout, affirme le chef de l'État, y compris la nécessité de se doter de l'arme nucléaire et de faire des essais. Mais Emmanuel Macron promet vérité et transparence.
Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Cette dette est le fait d'avoir en effet abrité ces essais, et en particulier les essais nucléaires entre 66 et 74, dont on ne peut absolument pas dire qu'ils étaient propres.
Emmanuel Macron qui l'affirme toutefois, il n'y a pas eu de mensonge. Le président fait une série d'annonces dont l'ouverture des archives et la facilitation de l'indemnisation des victimes, avec la prolongation des délais pour déposer un dossier, des moyens humains et financiers supplémentaires pour les traiter. Mais le chef de l'État prévient, impossible de prendre toutes les pathologies en charge de manière indifférenciée. En revanche, pas de demande de pardon, donc comme le réclamait une partie de la population.
Claudia Bertram, envoyée spéciale en Polynésie d'Europe 1.
Emmanuel Macron qui s'est félicité qu'un Français sur deux soit désormais vacciné.
Ce n'est pas un point d'arrivée, mais c'est une étape, a toutefois déclaré le chef de l'État, appelant les Français à ne pas relâcher leurs efforts. La vaccination d'autant plus importante qu'elle est étroitement liée aux prévisions de croissance. Le Fonds monétaire international, le FMI, alerte sur une reprise à deux vitesses dans le monde. Et ce qui change tout, Emmanuel Duteil, c'est l'accès ou non au vaccin.
Oui, la reprise devrait en effet être plus rapide que prévu dans les pays riches qui ont des vaccins en masse. L'accès aux vaccins est devenu la principale ligne de rupture divisant la reprise mondiale en deux blocs, insiste le FMI. On va prendre deux exemples si vous le voulez bien et on va débuter avec celui des États-Unis. Le FMI mise sur une croissance de 7% cette année à la baisse, c'est 0,6 points de plus que prévu et près de 5% l'an prochain. Là, c'est carrément 1,4 points de plus. L'accès aux vaccins et les plans de relance stimule tout simplement la première économie mondiale. À l'inverse, l'Inde, très touchée par le variant Delta et qui a très peu de vaccins, là la croissance devrait être inférieure de 3 points aux dernières prévisions. Et là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 40% de la population des économies avancées est entièrement vaccinée contre 11% dans les économies de marché émergentes et une infime fraction dans les pays en développement, détaille le FMI. L'institution a justement proposé récemment un plan de 50 milliards de dollars pour vacciner au moins 40% de la population mondiale d'ici la fin de l'année. Un plan pour le moment extrêmement ambitieux.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
La crise sanitaire qui a aussi fortement impacté les soldes d'été qui se sont terminés hier. Alors à quel point? On va voir ça avec vous ce matin. Francis Palombi, bonjour.
Bonjour.
Président de la Confédération des commerçants de France. Premier bilan très mitigé, nous dites-vous, avec une baisse notable par rapport aux années d'avant-crise.
Eh bien écoutez, oui, ce n'est pas un bon cru. Il faut le dire, c'est un cru sanitaire. J'appelle moi ça les soldes sanitaires parce que quand même depuis plus d'un an, vous connaissez la situation. Depuis le début de l'année, les premiers 6 mois, c'est quand même difficile. Il y a eu fermeture, réouverture. Alors, nous avons fait une étude tout de suite, bien sûr, ce qui était normal. 49% de cette étude de sur 300 à peu près commerçants, eh bien, c'était 49% ont noté une baisse autour de entre 10 et 25%. C'est irrégulier. Paris est très, très affecté, pas de touristes. Des problèmes de circulation parfois, mais surtout pas de tourisme, parfois un peu la météo. 54% également de ces sondés ont dit on a perdu à peu près dans les mêmes proportions, même un peu plus, par rapport à 2019, qui était une année, bien sûr, hors Covid.
Donc vous dites jusqu'à 25%, parfois un quart de chiffre d'affaires en moins sur ces soldes par rapport à avant la crise. Il n'y a pas que la crise qui explique ces mauvais résultats. Francis Palombi, certains se plaignent aussi, et vous l'avez beaucoup relayé, de la concurrence du e-commerce et puis de la date des soldes qui a été jugée mal placée.
Écoutez, pour nous les indépendants qui travaillons normalement, si je puis dire, avec des marges normales, et je ne fais pas de distinction, je ne veux pas jeter l'opprobre sur une forme de commerce ou une autre, mais les choses étant ce qu'elles sont, notre modèle économique aurait préféré, comme en 2020, le ministre avait accédé à nos demandes, et il avait placé les soldes démarrage 15 juillet. Ça a été meilleur, elles ont été prolongées, ça a été plutôt bien, et nous avons vécu cette année quelque chose qui est inadmissible, monsieur. Nous avons vécu 7 jours avant les soldes, les Prime Day d'Amazon. Ce n'est pas correct. Le ministre de l'économie et le ministre Alain Griset ont sollicité le directeur général d'Amazon France. Ça a été une fin de non-recevoir. Mmh. On fera nos Prime Day parce qu'ils voulaient, avant que la TVA s'étende à tous leurs produits, ils voulaient passer à travers les gouttes puisque cette mesure sur la TVA est intervenue le 1er juillet.
Et ça a fait beaucoup de mal aussi
aux
petits commerçants. Merci beaucoup, voilà. Je suis désolé, le temps nous est compté. Merci beaucoup, on a entendu en tout cas ce bilan. Un commerçant sur deux a perdu de l'argent dans ses soldes par rapport à il y a deux ans au niveau d'avant-crise. 10 à 25% de chiffre d'affaires en moins. Merci Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, en direct dans ce journal.
La politique, c'est le deuxième à se lancer après Valérie Pécresse. Le médecin Philippe Juvin, l'un des visages les plus connus de la crise sanitaire, est candidat à la primaire de la droite. Chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, Philippe Juvin se présente comme le candidat des services publics. Il sera votre invité juste après ce journal. Mais avant, Louis Dragnel, quelle est l'ambition de Philippe Juvin ?
En fait, sur le papier, Philippe Juvin, 57 ans, cumule toutes les casquettes du moment. Maire de la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine, ancien député européen et chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Très impliqué dans son hôpital, mais aussi dans les médias pendant la crise sanitaire, il se présente aujourd'hui comme le candidat des services publics. Des services publics jugés par les Français en déclin pendant la crise des Gilets jaunes et souvent inefficaces pendant la crise sanitaire. À rebours d'une vision libérale portée par certains à droite il y a plusieurs années qui défendaient la rationalisation des services publics et surtout un retrait de l'État dès que possible, Philippe Juvin se pose donc en défenseur de l'exact contraire. Cet ami de Nicolas Sarkozy, à la parole très libre, propose de baisser les impôts de manière massive et le transfert des pouvoirs de l'État aux collectivités, notamment en matière de santé et de sécurité. Mais on peut avoir du mal à comprendre l'objectif ultime de sa démarche, car dans un entretien au Figaro, Philippe Juvin, qui dispose à ce stade de peu de soutien, prend le plus grand soin à ménager ses principaux rivaux, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.
Et on lui pose toutes ces questions à Philippe Juvin. Il est mon invité sur Europe 1 pour l'interview politique dans un peu moins de 5 minutes. Pour l'heure, il est 8h09 et après les révélations, l'heure des explications, le ministre de la Défense israélien Benny Gantz doit rencontrer son homologue française Florence Parly aujourd'hui.
Ils évoqueront forcément les derniers développements de l'affaire Pegasus, du nom de ce logiciel espion qui aurait permis de surveiller des journalistes et des responsables politiques français, dont Emmanuel Macron. Clotilde Fraco, vous êtes notre correspondante en Israël. Comment est annoncée cette visite ici ?
Le ministère de la Défense israélien le martèle. La rencontre à Paris était programmée depuis longtemps, bien avant que n'éclate le scandale Pegasus. Mais les révélations des journalistes du consortium emmené par Forbidden Stories ont quelque peu bousculé l'ordre du jour de cette visite. Le ministre de la Défense israélien Benny Gantz espérait parler du Liban et de la question du nucléaire iranien avec Florence Parly. Il va devoir aussi désormais s'expliquer sur le rôle d'Israël dans le scandale Pegasus. Le ministère de la Défense israélien a en effet donné son feu vert pour l'exportation du logiciel officiel produit par NSO. Jeudi soir, le président français Emmanuel Macron avait déjà téléphoné au premier ministre israélien Naftali Bennett pour lui demander des explications. Un coup de fil qui n'a pas été tout de suite rendu public en Israël. La pression diplomatique s'intensifie donc sur l'État hébreu. Il y a quelques jours, des responsables américains ont également exigé des éclaircissements et la chancelière allemande Angela Merkel a demandé plus de régulation autour de l'exportation des technologies de surveillance comme Pegasus.
Clotilde Mravko et puis direction les Jeux Olympiques pour finir avec cette troisième médaille d'or décrochée cette nuit par la France.
Après Romain Canon en escrime et Clarisse Agbenienou en judo, c'est un duo qui a été sacré cette nuit en aviron, Julien Froment.
Effectivement, ils ont marché sur l'eau, la paire Mathieu Androdias, Hugo Boucheron en effet étaient les plus rapides en deux couples. Ils devancent la paire néerlandaise et chinoise. Une fois la ligne d'arrivée franchie, les Français se sont enlacés. Une médaille entre potes, les deux garçons de 31 et 28 ans, champions d'Europe en titre, ont bataillé pour l'emporter. La faute à des erreurs, des fausses pelles quand vous mettez des coups de rame hors de l'eau, mais ils ont su se remobiliser et décrocher le plus beau des métaux. Cela faisait 17 ans que l'aviron français attendait une médaille d'or olympique en deux couples.
Et l'information de la nuit de ces Jeux aussi, Julien, c'est le retrait de la gymnaste Simone Biles du concours par équipe.
Oui, elle a craqué moralement malgré des entraînements ébouriffants où elle paraissait invincible. La quadruple championne olympique a jeté l'éponge lors du concours général par équipe. Un saut et puis s'en va. La fédération américaine a évoqué un problème médical. Quelques heures plus tard, Simone Biles a été un peu plus précise et a même posé des mots sur le mal qui la ronge. C'est un souci mental, des démons dans sa tête, je la cite, à évacuer. Normalement, elle doit participer demain au concours général en individuel, mais l'incertitude plane toujours autour de sa présence.
Julien Froment du service des sports d'Europe.
Dans le journal d'Émilie Dez, merci Émilie, il est 8h12.
Europe 1, Théo Manval.